BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau. 90 minutes business.
90 minutes business, on est ravis de vous retrouver pour cette émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières infos avec nos invités, nos reporters, Jean-Marc qui est en forme et toujours ici avec nous. Comment ça va Jean-Marc?
Et tout va bien.
C'est parti pour le sommaire de ce mardi 7 février. 164 milliards d'euros, le déficit commercial de la France sur les biens s'est énormément creusé en 2022. Une dégradation de 78 milliards sur un an, les explications dans un instant de Thomas Sasportas avec Jean-Marc également. Dans le focus, on parlera de ces tremblements de terre en Russie, plus de 5000 victimes à l'heure où l'on parle. Donc en Turquie et en Syrie, les usines du pays s'organisent notamment. Et nous serons en direct dans 5 minutes avec Christophe Pied-Noël et les porte-parole du groupe Lactalis qui a plusieurs usines sur place. Et puis, il met en relation les grandes marques et les clubs de sport amateurs. Guillaume Sarfati, directeur général d'Act for Sport, viendra nous parler de son business. Ce sera dans une dizaine de minutes. N'oubliez pas également 12h55. La deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez toutes les questions à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Lorraine Goumeau y répond. Elle vous aide à recruter aussi. Ça se passe en télé, en radio et sur les réseaux sociaux. 12h55, donc ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
Le commerce extérieur français n'avait jamais vu cela. Déficit de 164 milliards d'euros l'an dernier, presque le double du déficit de 2021. Thomas Sasportas, comment on explique un chiffre, on peut le dire aussi catastrophique?
Oui. Alors déjà, vous avez raison de rappeler qu'en 2021, c'était déjà une catastrophe. Oui. On avait un déficit record, jamais vu, de 85 milliards d'euros. Mais alors l'an dernier, effectivement, on a pulvérisé malheureusement ce record avec un déficit de 164 milliards d'euros, c'est-à-dire quasiment le double du déficit catastrophique de l'année précédente. Alors comment est-ce qu'on a fait pour tomber aussi bas? Évidemment, la crise énergétique joue énormément. Les prix de l'énergie se sont envolés à cause de la guerre en Ukraine. L'euro s'est déprécié par rapport au dollar d'environ 10% et l'énergie s'achète beaucoup en dollars. Et la France, on le sait, importe massivement, ou en tout cas a dû importer massivement de l'énergie, de l'électricité à cause des difficultés sur le parc nucléaire, et du gaz, la France a acheté à prix d'or du GNL aux Américains, au Qatar, à la Norvège pour compenser l'arrêt du gaz russe. Le résultat de tout ça, c'est que la facture énergétique est passée en un an de 45 milliards d'euros à 115 milliards, plus 70 milliards en un an. Et ça veut dire que la facture énergétique est responsable à elle seule de 86% de la dégradation du commerce extérieur l'année dernière.
Catastrophe donc sur le plan énergétique. Est-ce que ça cache autre chose? Est-ce que les autres secteurs, par exemple, ont enregistré de bonnes performances, Thomas?
Il y a des bonnes nouvelles, effectivement, dans ce chiffre historiquement rouge. Dans les services, par exemple, on a un nouveau excédent record de 50 milliards, notamment grâce à la reprise du tourisme, en excédent de 14 milliards. Les exportations automobiles sont quasiment revenus à leur niveau d'avant la crise sanitaire. La filière agricole dégage des excédents records avec la guerre en Ukraine. Nos exportations ont bondi de 37% et de manière générale, nos exportations ont progressé l'année dernière de 18%. Mais en face, les importations ont davantage progressé de 29%. Donc, on est toujours à la fin déficitaire. Le problème structurel de déficit commercial de notre industrie ne s'est pas du tout arrangé l'an dernier. Au contraire, il s'est aggravé dans tous les domaines, dans l'automobile, l'électronique, l'informatique. On est toujours dans le rouge. Le ministre du Commerce extérieur le reconnaît lui-même. Il a dit ce matin, 25 ans de désindustrialisation, cela se paye. Et même dans l'aéronautique, qui est historiquement le moteur fort de notre commerce extérieur, eh bien, on n'a toujours pas remonté la pente de la crise sanitaire. Nos exportations sont toujours 20% plus faibles que ce qu'elles étaient en 2019. Le résultat des courses, donc, un déficit commercial hors norme l'an dernier à 164 milliards. Pour cette année, on serait à nouveau au fond du trou, 154 milliards d'après le budget 2023. Et on se demande quand la France reverra un jour un excédent commercial sur ses biens. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2002.
2002, il y a plus de 20 ans, effectivement. Merci Thomas, Jean-Marc.
Oui, ce qui est important, c'est plus encore que le déficit commercial, le déficit extérieur. On a parlé du tourisme, le tourisme n'est pas dans le déficit qui est annoncé. Le tourisme, c'est une autre composante de la balance des paiements courants. Et si on regarde l'ensemble de la balance des paiements courants, on arrive à un déficit qui sera probablement entre 70 et 80 milliards d'euros. Et donc, on est dans la même situation qu'en 1982-83. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Le pays vit au-dessus de ses moyens. Donc, ou bien il produit davantage pour exporter davantage, pour effectivement accueillir plus de touristes. Ou bien il baisse ses revenus pour importer moins. Mais il n'a pas d'autre solution que soit baisser son revenu, soit travailler davantage. Mmh. Or, le pays, manifestement, a du mal à comprendre ça. C'est-à-dire, quand on lui dit qu'il va travailler davantage...
Plus longtemps, oui.
Il se met dans il est dans les rues. Ouais. Et quand on lui dit qu'il va falloir faire des efforts sur son revenu, il dit, ma priorité, c'est le pouvoir d'achat. Donc, je pense que pour le gouvernement, c'est une situation qui est catastrophique, mais hélas, risque d'être durable. Pourquoi, en plus, elle va être durable? C'est que la différence qu'il y a entre 82 et 83, vous savez conduire la politique de rigueur, c'est que là, nous sommes protégés par les Allemands. Et donc, l'enjeu du gouvernement, puisqu'il n'arrive pas à calmer les Français, c'est de calmer les Hollandais.
Le casse-tête, en effet. Dans ce journal, également, rien ne semble pouvoir arrêter BNP Paribas. Caroline Morisseau, la banque vient de réaliser un nouveau bénéfice record, plus de 10 milliards d'euros. C'est encore plus que l'an dernier, Caroline.
Oui, c'est même du jamais vu, en fait. C'est la première fois que BNP Paribas franchit le seuil symbolique des 10 milliards d'euros de bénéfices. Alors, tous les moteurs de la banque fonctionnent à plein régime. Les revenus sont en hausse dans tous les métiers, particulièrement dans les activités liées aux entreprises et aux grandes institutions, en fait, où les banques commencent à profiter de la hausse des taux qu'elles répercutent à leurs clients, ce qui gonfle leur marge de revenus d'intérêt. Derrière, le coût du risque, c'est-à-dire les provisions passées pour faire face à d'éventuels impayés, est en hausse, mais il reste quand même très modéré, compte tenu du contexte économique particulièrement compliqué. Preuve d'ailleurs que la banque reste confiante pour les mois à venir. Elle vient de relever ses objectifs. Elle tape désormais sur une croissance annuelle moyenne de 9% d'ici à 2025 contre 7% jusqu'ici. Mmh. En fait, la seule ombre au tableau, c'est que tout cela risque d'alimenter la polémique sur les méga profits. La direction a donc tenté dès ce matin de déminer en rappelant qu'elle était un très gros contribuable et qu'elle avait payé plus de 7 milliards d'euros d'impôts et de taxes l'an dernier.
Merci beaucoup. Caroline, un petit mot, Jean-Marc.
Oui, elle est aussi un très gros exportateur. Parce que ça n'est pas non plus dans la balance commerciale, mais oui. Nous avons une force au commerce extérieur en termes d'exposition vers l'extérieur, c'est notre système bancaire. Heureusement que la BNP est là. Heureusement qu'elle réalise des bénéfices à l'étranger, parce que ça compense le déficit commercial.
On y reviendra à 12h30 tout à l'heure avec Antoine Larigauderie. Merci beaucoup, Caroline. Notre focus aujourd'hui, on s'intéresse à ces tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie depuis hier. Le bilan s'alourdit de rendeur. 5000 victimes à l'heure qu'il est, plus de 5000 victimes. On en parle avec vous. Christophe Pied-Noël, vous êtes porte-parole du groupe Lactalis. Vous avez des usines sur place. Expliquez-nous la situation actuelle tout d'abord. Je crois que Christophe Pied-Noël ne nous a pas entendu. Christophe Pied-Noël, porte-parole de Lactalis, est-ce que vous nous entendez? Non, il ne nous entend pas. On va essayer de le joindre à nouveau par téléphone. Jean-Marc, c'est vrai que bon, c'est une situation de crise. Les usines de toute nationalité qui se trouvent sur des territoires comme cela.
Oui, on met souvent en avant le réchauffement climatique, la montée des eaux. Mais enfin, il y a des risques sur la Terre qui sont des risques anciens, qui sont antérieurs au réchauffement climatique, qui ne sont pas liés à l'activité humaine, les risques sismiques et en plus qui sont très difficiles à anticiper. Vous savez, tout le monde est persuadé que la Californie va disparaître, mais personne ne sait si c'est dans 48 jours ou 48 ans, oui. Ou 48 000 ans.
Difficile, effectivement, d'anticiper. On vous a retrouvé, Christophe Pied-Noël, porte-parole du groupe Lactalis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation telle qu'elle est, là, quelques heures après ces tremblements de terre? Vous avez des usines sur place. Comment ça se passe pour votre groupe?
Alors, le groupe Lactalis a effectivement 6 usines en Turquie. C'est un pays dans lequel on est très, très fortement implanté. Et notre usine de Marache, qui se situe à peu près à une heure de route de Gaziantep, a été frappée par ce tremblement de terre. Donc, la situation est assez préoccupante localement. Et notamment en ce qui concerne nos équipes, nous avons 150 collaborateurs sur place. Et à l'heure où on se parle, deux d'entre eux et leurs familles manquent à l'appel. Ils sont très probablement sous les décombres, donc ça suscite évidemment énormément d'inquiétude pour leurs collègues et pour l'ensemble du groupe. Donc la situation est effectivement extrêmement difficile là-bas.
Vous nous rappelez, Lactalis, en Turquie, de façon générale, c'est combien de sites de production, combien d'employés, et une production qui est très importante, parce que la Turquie, c'est 80 millions d'habitants, et ce sont de gros consommateurs de lait.
Oui, alors on est présent en Turquie depuis 2015. On y a près de 3000 collaborateurs. Nous gérons là-bas 6 laiteries. Et effectivement, il y a une vraie culture laitière en Turquie. Et on y est présent à la fois avec des marques locales, comme la marque Ichi, mais également avec la marque Président. Mais bon, ce qui nous effectivement préoccupe aujourd'hui, c'est plutôt de venir en aide à nos équipes basées à l'Est. On s'est pleinement mobilisé. On a envoyé un premier camion d'aide alimentaire dès hier soir. Il y en a deux autres avec des couvertures, des tentes. La difficulté que nous remontent nos équipes sur place, c'est de pouvoir mettre les équipes au chaud et à l'abri, puisqu'évidemment les maisons ne sont plus praticables ou dangereuses. Donc on a aménagé un local dans notre usine. L'usine a un peu souffert du tremblement de terre, mais elle est debout. Et donc nous, notre préoccupation, c'est effectivement de pouvoir mettre tous nos collaborateurs à l'abri. Et on a également aussi, avec l'ensemble de nos employés, organiser une collecte de dons de sang pour pouvoir parer aux urgences médicales.
Voilà, effectivement, situation d'urgence. On est encore dans ces heures très sensibles, hein, juste après ce tremblement de terre. Rapidement, une cellule de crise comme celle-là, ça se prévoit? Vous aviez un plan prévu pour intervenir au plus vite auprès de vos équipes sur place si cela arrivait?
Oui, alors la gestion de crise, elle doit se faire à deux niveaux. Elle se fait évidemment au niveau local pour pouvoir intervenir extrêmement rapidement. Et nos dirigeants sur place se sont évidemment rendus sur les lieux dans le cadre défini par les autorités turques. Et puis c'est également la mobilisation de notre siège en France à Laval. Et nos experts industriels pourront, dès que ce sera techniquement possible, se rendre sur place pour pouvoir voir l'état de l'usine et voir dans quelles conditions on peut redémarrer la production alimentaire, parce qu'il y a également un enjeu, c'est de pouvoir collecter le lait des éleveurs turcs. Les vaches continuent évidemment de produire du lait, et donc il faut qu'on puisse s'organiser pour ne pas perdre de matière et continuer de produire de l'alimentation localement.
Merci beaucoup Christophe Pied-Noël, porte-parole du groupe Lactalis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct pendant ces heures difficiles. Jean-Marc, un petit commentaire sur cette situation?
Oui, ce que j'ai trouvé également à la fois intéressant et plutôt encourageant, c'est le fait que le voisin grec, qui a eu des relations toujours très compliquées avec la Turquie, s'est porté spontanément en aide à la Turquie, et la Turquie a accepté sans mettre de conditions. Elle a senti qu'il y avait une sorte de solidarité de ses peuples autour de la mer Égée, et puis pour Lactalis, le yaourt est tantôt bulgare, tantôt grec, et il est en train de devenir turc. C'est aussi une zone qui est très intéressante sur ce plan-là.
Exactement. Merci beaucoup Jean-Marc. Marc, on va faire un point Euronext tout de suite avec Antoine. Un CAC 40 encore dans une phase d'immobilisme dont il a le secret, Antoine.
Eh oui, on a pas mal consolidé. Hier, on a pris des bénéfices. Il y a un petit peu plus d'incertitudes sur le marché, mais enfin, on reste quand même très proche de nos plus hauts annuels. Un CAC 40, donc, sans trop de direction. On est en hausse de 0,06%. 7141 points, plus 0,09 pour l'Eurostock 50 et moins 0,07 pour le DAX à Francfort. Deux facteurs importants. Déjà, l'euro qui baisse face au dollar. Le billet vert reprend très nettement des couleurs. On est à 1,0710. Et le pétrole qui poursuit son redressement. En 24 heures, on a gagné beaucoup de terrain. On était sous les $80 hier à la même heure. Là, on est à 82,40. Donc, très net redressement du pétrole. Plus forte hausse du CAC 40, c'est Renault. Plus 2,97 à 40,28 €. Le marché continue d'acheter le reformatage de l'alliance avec Nissan. BNP Paribas, on en parle ce matin, c'est la superstar du jour avec des résultats éclatants. Plus 2,35 € pour le titre. On est à 62,18 €. Société Générale suit à 2,16. 28,15 €. Eurofin Scientifique, en revanche, subit la plus forte baisse du CAC à 4,6%, 67,80 €. Et on a la distribution qui subit des baisses assez marquées. Un Carrefour, moins 2,75 € à 17 €. Et Casino, moins 2,62 € à 11,54 €. Le CAC, donc, plus 0,07, 7142. Et l'euro, 1,0714, Sandra.
Merci Antoine Larigauderie. On vous retrouve donc tout à l'heure, 12h30, pour parler effectivement des très bons résultats de BNP Paribas. L'édito de Jean-Marc.
90 minutes business. L'édito de Jean-Marc Daniel.
Et où tourne tourner aujourd'hui, Jean-Marc, vers l'Indonésie.
Oui, parce qu'on vient d'avoir des chiffres sur l'Indonésie, et à l'heure où on annonce un déficit commercial considérable en France, l'Indonésie a annoncé un excédent commercial de 60 milliards d'euros. Et simultanément, le chiffre de croissance de l'Indonésie était de 5,3% en 2022, ça fait le deuxième ou troisième pays dont la croissance aura été la plus forte. Alors, tout le monde pense Chine, tout le monde s'intéresse à l'Inde, et je pense qu'il faut également découvrir ce pays qu'est l'Indonésie. L'Indonésie a trois atouts. Le premier atout, c'est que c'est un pays comme l'Inde et comme la Chine très peuplé, avec une population relativement jeune et donc des potentialités de croissance assez fortes liées à sa démographie. La deuxième chose, c'est que l'Indonésie, c'est énormément de matières premières. C'est un producteur de charbon, sujet sur lequel elle se fait discrète. Mais c'est aussi un très gros producteur de certains nombres de métaux. Et donc là, elle a bénéficié l'année dernière de l'évolution du cours du nickel. Mais il ne faudrait pas réduire ce pays et simplement à une masse de mines et une masse de matières premières. C'est un pays qui est assez innovant. Et le troisième élément, c'est que c'est un pays qui, dans sa modernisation, a décidé de se réorganiser sur le plan géographique. Et la vieille capitale, qui se définissait un peu comme la New York de l'Extrême-Orient, parce qu'elle avait été créée par des Hollandais comme New York. New York, c'était New Amsterdam. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, s'appelait Batavia à l'époque coloniale. Et donc, l'Indonésie est en train de se réadapter, de se réaménager. Et donc, il y a des potentialités d'investissement énormes, notamment dans l'île de Bornéo. Donc, à la fois, on a une croissance qui est forte et on a des potentialités énormes. Et je pense que tous les gens qui s'interrogent sur est-ce que j'ai bien fait d'aller en Chine, je leur dis, allez en Indonésie et arrêtez de vous poser la question.
Voilà. Allez, on oublie la Chine pour le moment. On va surveiller ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. Restez avec nous dans un instant. On va recevoir Act for Sport. Son directeur général, Guillaume Sarfati, sera avec nous. Il met en relation des grandes marques et des clubs de sport amateurs. Il va nous expliquer son business dans un instant. Et puis, d'ici 35 minutes, on sera avec vous, Lorraine Goumeau, deuxième partie de l'émission, La Libre Antenne. Vous recrutez, vous répondez aux questions qu'on nous a posées aussi. Vous allez parler de Prud'homme, notamment, Lorraine.
Oui, on va zoomer sur cette belle institution avec des questions très concrètes. Qui paye les Prud'hommes? Combien de temps ça prend? Et est-ce qu'on peut solliciter les Prud'hommes par Internet? Toutes les réponses à 12h50 et à 13h en direct sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et bien sûr sur notre antenne. Et puis on recrute, figurez-vous, 103 mètres sous terre. On sera avec le gouffre de Padirac dans le Lot. Ça vous changera de Jakarta, Jean-Marc.
Allez, ça c'est à retrouver à 12h55 avec Lorraine Goumeau. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Guillaume Sarfati, directeur général d'Act for Sport. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans 90 minutes business. Bon, c'est vrai, alors, on a l'habitude de voir des grandes marques sponsorisées, les grandes équipes sportives professionnelles. Mais depuis peu, ces marques s'intéressent aussi au sport amateur, hein, ce grâce notamment à des acteurs comme vous. Act for Sport, expliquez-nous ce que c'est.
Eh bien, merci de m'accueillir. Act for Sport, c'est tout simplement remettre en fait le sponsoring local, mais accessible à des très grandes marques. Et donc, en fait, nous, on va accompagner des marques nationales et internationales pour qu'elles puissent venir soutenir des clubs de sport amateurs partout sur le territoire. Donc, un de nos clients, par exemple, va venir offrir les équipements de match à une centaine, 200, 300 clubs de sport amateurs. Pour leur permettre d'éviter une dépense conséquente, qui sont les équipements sportifs, et puis leur permettre à la marque de briller en local.
Unibet, Backmarket, Saint-Maclou, Bouygues Télécom, Butagaz, Land Rover, Bigmat, Groupama, c'est ce style de marque qui travaille avec vous. Quel est l'intérêt pour ces marques de fournir ces équipements à ces petites équipes locales?
Alors l'intérêt, il est double. L'idée de tout ça est née d'un double constat. On avait d'un côté des clubs de sport amateurs qui, de plus en plus, peinaient à remodeler leur business model et donc à trouver des moyens de financement. De l'autre, des annonceurs qui ont envie de créer du lien en local, créer de l'engagement, de créer de la conversation aussi avec les gens qui sont proches de leur point de vente. Et donc, en fait, les annonceurs viennent chercher ça chez nous, c'est-à-dire de la proximité, de l'engagement. On parle beaucoup de RSE avec souvent des engagements environnementaux, mais on peut aussi avoir un engagement sociétal. Et c'est ce que nous, on va proposer, c'est un engagement sociétal pour que les marques puissent prendre la parole et défendre des valeurs qui sont réelles et concrètes, puisque les équipements sont réellement offerts au club et portés tous les week-ends. Donc il y a une sorte de concrétisation très importante chez nous.
Jean-Marc.
Oui, quand les marques viennent vers vous, est-ce qu'elles ont une idée préconçue? Est-ce qu'elles disent je veux investir dans telle région, sur tel sport? Ou est-ce que c'est vous qui leur donnez des conseils en leur disant, compte tenu de votre profil, vous feriez mieux d'aller dans telle région, sur tel sport? Et question annexe, est-ce que vous couvrez tous les sports? Ou est-ce que vous dites, il y a des sports qui sont un peu ignorés, sur lesquels nous allons essayer de mettre les coups de projecteur pour leur permettre de se développer et de mieux vivre?
Je vais répondre en deux temps, du coup. Déjà, j'aimerais beaucoup qu'on nous approche. C'est pas encore le cas. On est encore une petite structure, 6 salariés, et on se développe énormément. Et donc, du coup, on a envie effectivement qu'un jour on nous appelle et on nous dise voilà. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui allons voir les marques pour essayer de leur expliquer ce qu'on fait. Et effectivement, on va être force de conseil. C'est-à-dire que faire du sport amateur, c'est tellement vaste, et ça va me permettre d'arriver sur la deuxième réponse. C'est tellement vaste que c'est extrêmement compliqué d'avoir des idées préconçues. En fonction du positionnement de l'annonceur, nous on va le conseiller. Il y a des annonceurs, vous avez cité certains de nos sponsors, typiquement Uber Eats qui est déjà dans le football en professionnel avec la Ligue et compagnie. Nous, on va naturellement les accompagner dans le foot. En parallèle de ça, on va avoir des marques comme Big Mat qui, elles, n'ont pas forcément une empreinte sportive particulière et du coup avec qui on va travailler en fonction du pays, parce qu'on travaille à l'international avec eux, pour les conseiller, eh bien faites du handball en France, faites du basket en Italie, et en fonction de tout ça, c'est aussi notre rôle de conseil. La deuxième question, c'était
est-ce qu'il y a quelques sports sur lesquels vous vous concentrez, ou est-ce que vous considérez que vous avez une sorte de mission pour faire connaître des sports qui sont relativement peu populaires, relativement peu connus?
On a cette mission, mais on fait face aussi à une réalité économique. Les annonceurs qui viennent chez nous, les marques qui viennent chez nous, viennent évidemment pour aider le sport amateur, mais elles viennent pour faire de la communication. Elles viennent pour être visibles et vues. Donc, à ce titre-là, pour le moment, le business est tourné essentiellement autour des sports collectifs. On travaille avec Groupama dans le cyclisme, puisqu'ils ont la team Groupama FDJ en professionnel. Le cyclisme, que l'on peut considérer comme un sport collectif quand il est en club, quand il est en individuel, non, mais quand il est en club, on roule en équipe. Donc, pour le moment, on a les 5 sports co, foot, hand, basket, rugby, volley, et puis le cyclisme. Mais il est vrai que c'est encore compliqué d'aller sur des sports un peu moins connus, parce que, un, ils sont pas forcément organisés de la même manière avec les maillots qu'on doit porter en compétition, et donc, du coup, c'est l'outil principal de visibilité. Et deux, ils sont nettement moins visibles et médiatisés, donc c'est plus complexe. En tout cas, on espère que dans quelques années, on pourra aussi se tourner vers ça, autour des sports principaux, évidemment.
Actuellement, combien de sponsors et combien d'équipes aidées ?
Alors, on a lancé tout ça début 2019. On a soutenu, grâce à 12 sponsors, plus de 100 000 joueuses et joueurs, donc à qui on a offert un kit de match. Mais quand on compare aux 17 millions de licenciés en France, on est très, 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 très loin du potentiel qui existe aujourd'hui. Et on appelle toutes les marques à l'aube des JO de Paris 2024 à venir vraiment soutenir le sport amateur.
Lancé en début 2019, ça veut dire qu'un an plus tard, il y avait la pandémie qui arrêtait tous les clubs.
Oui.
Qu'est-ce que ça a fait sur votre business?
Ça a fait peur. Ça a fait peur.
En même temps, ça valide bien le principe d'aider ensuite les petits clubs à repenser leur façon de fonctionner.
Exactement. En fait, la pandémie nous a fait peur parce qu'on s'est tout de suite dit qu'une structure aussi petite que la nôtre allait forcément être en danger. Et ça a été presque l'effet complètement inverse, puisque les marques n'ont jamais eu autant envie et besoin aussi, d'un point de vue positionnement, de soutenir la société. Le sport amateur, les associations sportives sont indépendantes de la société qu'on peut aider. Et donc, du coup, finalement, je vais pas aller dire que ça nous a servi, parce que ce serait un peu extrapolé, mais en tout cas, ça a été vraiment un levier pour dire à la société, bah, aujourd'hui, même les marques doivent agir, et on n'est pas juste des consommateurs pour vous, les marques. Venez aussi faire partie de nos vies, et cette dynamique-là s'est enclenchée plutôt très bien depuis le Covid.
Mais c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a une vraie pensée RSE là-dedans, inclusive, c'est-à-dire on aide au sport amateur, ça leur sert énormément.
Exactement. En fait, nous, on considère vraiment le club de sport amateur comme un des derniers lieux de vie qui peut exister en local. Et le faire survivre, c'est une mission qui est assez extraordinaire. Pour tout vous dire, moi, je viens pas du tout du sport. C'est à peine si j'ai fait du sport en club quand j'étais petit. Je viens vraiment du milieu de la publicité. Mais quand je vois aujourd'hui le bonheur que ça apporte, quelle que soit la tranche d'âge à qui on va offrir les équipements, et puis quand on tourne des contenus pour les marques, quand on voit l'impact que peut avoir en local ces associations sportives qui vont faire beaucoup d'extrasportifs,
oui,
avec du soutien scolaire, avec de l'inclusion pour les handicapés, des choses comme ça par le sport. Mais en fait, on se dit qu'il y a un vrai rôle sociétal sur lequel nous on peut agir, et si on peut le faire, en permettant aux marques de faire de la communication qui soit saine et engagée, bah, ce serait vraiment une belle mission qu'on a envie d'accomplir.
Bon, idéalement, quand on est un club amateur de sport, il faut quand même rendre tout cela visible. C'est un petit peu le rôle que vous attribuez finalement à ces équipes sportives une fois qu'elles sont équipées.
Exactement, et elles le font avec un immense plaisir à ma grande surprise, puisque ne venant pas de ça, je me demandais quelles allaient être les réactions des équipes. La première des choses, c'est qu'il y a énormément de candidatures à nos opérations.
Et oui.
Parce qu'en fait, les clubs ont vraiment besoin de ce qu'on propose. Et donc ça a été super bien accueilli dès la première opération. On parlait tout à l'heure d'Unibet. Unibet, c'est le premier client à nous avoir fait confiance. La première opération, il y a eu tellement d'engouement dès la première semaine qu'ils ont décidé de doubler le nombre d'équipes sponsorisées. Donc ça a été vraiment la vraie surprise quand on a lancé ce business. Et puis, il faut se rendre compte que ces clubs-là, en fait, finalement, c'est un budget qui est conséquent dans leurs dépenses. Oui. Donc du coup, si on peut leur permettre de faire la saison suivante sans avoir à le dépenser, c'est juste génial.
Voilà, ça s'appelle Act for Sport. Ça met en relation ces grandes marques avec tous les clubs amateurs qui le souhaitent. Il suffit d'aller voir effectivement la plateforme. Merci Guillaume Sarfati, directeur général d'Act for Sport, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 90 Minutes Business. Tout de suite, le top 3 du web.
90 Minutes Business, le top 3 du web.
Et on accueille Frédéric Bianchi, pour le moment préféré de Jean-Marc Daniel. Le top 3 du web, les articles.
Est-ce qu'on va parler de la grève?
Alors attendez. Le plus lu ce matin.
Roi la paresse aussi.
Entretien avec la députée NUPES Sandrine Rousseau. Ah, on n'est pas loin. Invité de BFM TV, Frédéric.
Sandrine Rousseau, très fâchée contre le gouvernement. Pour la réforme des retraites, évidemment, on commence à en parler, hein, qui demande des efforts, selon elle, à des gens qui en ont déjà énormément fait pour tenir jusqu'à la retraite, alors qu'elle rappelle, eh bien, elle rappelle son droit à la paresse.
Ah, hein,
c'est
vous
devenu
allez adorer.
La turiféraire du droit à la paresse. Selon elle, la retraite, eh bien, c'est la récompense de ce travail. Donc oui, il doit y avoir un droit à la paresse à 60 ans, et pourquoi pas même avant, demande-t-elle. Alors, le droit à la paresse, on rappelle qu'il y a eu une enquête intéressante quand même de l'Institut Montaigne, hein, auprès de 5000 actifs, eh bien, qui montre que le droit à la paresse n'est pas particulièrement partagé par les Français. Hein. Mmh. 77% des personnes sont satisfaites de leur travail et le temps de travail ne diminue plus depuis 2004. Et il a même tendance à augmenter, donc les Français veulent toujours travailler plus.
C'est pas Jean-Marc qui va vous dire le contraire.
Oui, les Français, ils veulent du pouvoir d'achat et donc il faut qu'ils travaillent.
Oui.
Quant à Madame Rousseau, je ne sais pas si elle a lu le livre de Paul Lafargue qui a lancé l'expression de droit à la paresse. Mais Paul Lafargue, dans le livre, explique bien, d'ailleurs, ce qu'il a fait avec sa femme, qui était la fille de Karl Marx, qu'il arrive à un certain âge où on est à la charge de la collectivité, et donc, si on a une certaine forme de dignité, de décence, on se retire de la collectivité. Concrètement, Paul Lafargue et sa femme se sont suicidés. Alors, j'appelle pas Madame Rousseau à se suicider, mais simplement à lire
ça.
Paul Lafargue.
Effectivement. Le deuxième article concerne cette bataille entre les États-Unis et l'Europe qui s'annonce sur les industries vertes, Frédéric.
Exactement, oui. Nous sommes sur le point d'avoir un IRA européen. C'est Bruno Le Maire qui s'en est félicité. C'était chez nos confrères de France Inter. Alors l'IRA, on va rappeler ce que c'est. Hein. C'est l'Inflation Reduction Act. En gros, c'est un plan de 430 milliards de dollars pour soutenir les industries vertes aux États-Unis. Évidemment, eh bien, ce sont des subventions à des industries qui pourraient nous échapper à nous, Européens. Donc, Bruno Le Maire rassure, la Commission européenne va prendre le dossier à bras-le-corps et on aura notre IRA. On rappelle malgré quand même que la Commission européenne n'a pas attendu, hein, un certain nombre de plans sont prévus et donc cet IRA européen serait peut-être une manière de remarketer ces différents plans d'aide aux industries vertes sur le territoire européen.
L'utilité de ce déplacement, Jean-Marc ?
C'est pathétique tout ça, c'est-à-dire que on veut faire du protectionnisme et en plus faire du protectionnisme avec mon argent. Parce que la Commission européenne elle l'a subventionné avec de l'argent qu'elle prendra où ? Elle prendra dans notre poche, nous tous. Tout ça pour effectivement répondre à une vision de l'économie qui est une vision de l'économie totalement passéiste. Le protectionnisme, ça n'a jamais marché.
Et enfin, en ce jour de mouvement anti-réforme, on y revient, un article sur la situation des différents régimes de retraite qui est très lu, Frédéric.
Oui, on a repris un petit peu les rapports du corps pour savoir quels sont les différents régimes qui allaient le plus plomber le système global des retraites. On rappelle, 13,5 milliards, c'est le déficit global du système en 2030, mais certaines caisses seront beaucoup plus en déficit que d'autres. La Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, il y a beaucoup de lettres, elle amasserait un déficit de 8,4 milliards d'euros à horizon 2030. Alors donc, ce sont les fonctionnaires des collectivités locales, mais aussi fonctionnaires hospitaliers. Le régime de base aussi, des salariés du privé, artisans, commerçants, 10 milliards d'euros de déficit si on n'y fait rien. Donc si on rajoute les deux, on est déjà à 18 milliards. Alors, il y a quelques bons élèves. La caisse des complémentaires, la GIRC-ARCO, serait, si on ne touche pas à l'âge légal, plutôt positif, avec un excédent de 2,6 6 milliards d'euros. Alors on rappelle que, réforme ou pas, le corps prévoit que certaines caisses seront malgré tout en déficit, notamment la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Malgré la réforme, elle resterait en déficit en 2030.
Et encore, ce déficit est sous-évalué parce que ces déficits sont après ce qu'on appelle la compensation démographique, oui. C'est-à-dire les transferts de fonds que l'on fait à partir d'un régime vers un autre régime. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on ne touche pas au régime de retraite des danseurs de l'opéra. Il a été fixé par Louis XIV. C'est, je pense, important. Que c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, ils peuvent y aller.
Merci Jean-Marc, merci Frédéric. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de l'émission et le rappel des titres de Stéphanie Collot. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, le déficit commercial se creuse encore en 2022 à 164 milliards d'euros. C'est 78 milliards de plus sur un an. En cause, la crise énergétique qui a fait exploser les importations de gaz, de pétrole et d'électricité. C'est une nouvelle année record pour BNP Paribas. La banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022, en hausse de 7,5%. Le groupe révise en conséquence ses objectifs à la hausse, à savoir une croissance moyenne de son bénéfice de 9% sur un an d'ici 2025 contre 7% précédemment. La banque dit ne pas être intéressée pour acquérir une participation dans Orange Bank. Le titre prend plus de 2% sur les marchés. Notez que Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera l'invité de Good Evening Business. Ce sera ce soir à partir de 19h15. Chez le britannique BP, le bénéfice hors éléments exceptionnels a plus que doublé sur un an à 27,7 milliards de dollars, dopé par les cours élevés des hydrocarbures. Mais la major pétrolière publie une perte nette de 2,5 milliards de dollars, plombée par la sortie de Rosneft après la guerre en Ukraine. Mauvaise nouvelle pour SoftBank. Le japonais publie une perte surprise de 5,5 milliards d'euros au troisième trimestre, plombée par le ralentissement dans le secteur de la tech dans lequel il a massivement investi. La riposte des géants de la tech face au chat GPT de Microsoft. Google lance son propre robot conversationnel baptisé Bard. Cet assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle sera disponible pour le grand public dans quelques semaines. De son côté, le chinois Baidu va lui aussi proposer son propre robot, ErnieBot. C'est son nom. Les phases de test seront terminées le mois prochain. Après 25 années de vie commune, Renault et Nissan redéfinissent leur mariage. Et si au sein de l'alliance, on parle de rééquilibrage, pour les analystes, Renault sort perdant de ce deal. Luca De Meo est venu défendre sa nouvelle vision stratégique du groupe. Le directeur général de Renault était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Et en fait, c'est le temps qui va donner raison à l'un à l'autre, parce qu'on a bien l'intention avec Nissan et Mitsubishi de faire des choses. D'ailleurs, par exemple, ce nouveau contrat va permettre d'amener des voitures de Nissan et Mitsubishi produites en France dans les usines de Renault. Donc ça, c'est du concret.
En France, c'est aujourd'hui la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en moins de deux semaines. Le trafic est très perturbé dans les métros, RER et trains. Le mouvement est aussi très suivi dans le secteur de l'énergie. Les expéditions de pétrole sont interrompues depuis les sites de Total Énergie. Et chez EDF, on constate des baisses de production d'électricité, mais pas de coupure. On jette un coup d'œil au marché. À la mi-journée, le CAC est dans le vert, plus presque à l'équilibre, plus 0,05%, 7140 points, Sandra.
Merci beaucoup Stéphanie Collot.
Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et avant de revenir sur notre débat, la faillite qui n'en finit plus de notre système de santé, on vous rejoint en direct d'Euronext. Antoine Larigauderie avec vous, retour sur l'un des temps forts du marché. Aujourd'hui, le début des publications des résultats du secteur bancaire, les très bons chiffres de BNP Paribas, un signal encourageant Antoine.
Ben oui, je vous le disais la semaine dernière, c'est peut-être le secteur à suivre pour ces prochains mois à la Bourse de Paris. Le résultat net de BNP Paribas, 10,2 milliards d'euros. Un record, alors que 2021 avait déjà été un record. Au milieu de tout ça, en termes d'activité, l'activité entreprise-institution fait plus 15,7% sur l'année, plus 9,3% pour la banque commerciale, et puis année très inégale pour la BFI, mais quand même plus 3% de croissance. On a même quand même des analystes ce matin qui parlent d'une rentabilité et d'une dynamique qui surpasse de loin, de très loin même dans certains cas, les grandes banques de Wall Street sur la période. On se souvient que les résultats avaient été beaucoup plus problématiques. En plus, BNP Paribas, c'est un coût du risque qui est quasiment stable sur un montant à 3 milliards d'euros. Le groupe bénéficie à plein du contexte économique français, des dispositifs d'aide qui ont permis aux entreprises, notamment de correctement traverser la crise. Ainsi, très peu de défauts ou de baisse de la qualité des crédits chez BNP Paribas, ce qui reste un problème, notamment du côté du secteur bancaire américain. Et pour l'avenir, il s'annonce brillant. Pour le moment, le groupe révise à la hausse ses prévisions de croissance des bénéfices et estime qu'il va en plus bénéficier de 2 milliards d'euros de revenus supplémentaires à horizon 3 ans avec les hausses de taux de la BCE et de l'alignement des rendements. Ça met du temps à infuser dans les résultats, mais en tout cas, c'est effectif. Hier, on disait que ça avait un petit peu du mal à être répercuté. Donc, score parfait sur le papier. En plus, le groupe n'a même pas comptabilisé la plus-value de la cession de Bankwest aux États-Unis qui va lui permettre de libérer un peu plus de fonds propres, hein, 11 milliards d'euros au total. Donc, on se retrouve avec un secteur bancaire européen. BNP Paribas signe quand même ses chiffres spectaculaires après UBS et UniCredit, qui se retrouvent en avance par rapport à Wall Street, et c'est peut-être une des rares phases où ça arrive de ces 10 dernières années.
Oui, Jean-Marc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Heureusement qu'ils sont là.
Oui, heureusement qu'ils sont là. Vous vous souvenez, on avait un candidat à la présidentielle qui a été élu en plus sur le thème « Je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance ». Et le problème, c'est que l'économie française n'a qu'une force. En tout cas, parmi les forces qu'elle a, elle en a une qui est claire, c'est son système bancaire. Antoine l'a dit, il a comparé au système américain. Ça fait longtemps que les banques européennes sont beaucoup plus mieux gérées que les banques américaines. D'abord, dans la gestion vis-à-vis de leurs clients, elles ont fait énormément d'efforts, y compris d'ailleurs en facturant énormément de frais bancaires qui font que les clients paient pas mal. Mais elles sont également dans la qualité de leurs prêts. Le système bancaire américain a devant lui un certain nombre de catastrophes annoncées comme la dette scolaire. Et donc, le système bancaire américain a beaucoup prêté aussi aux pays en voie de développement, notamment aux pays d'Amérique latine, ce qui n'est pas le cas du système bancaire européen, c'est également du système bancaire français. Nous devons nous réjouir des succès de la BNP, d'autant plus que maintenant, dans la presse, tout le monde va s'abattre sur Total, donc la BNP, on peut se dire finalement, c'est une bonne nouvelle, sans
oui.
état d'âme.
Il y a des chances, oui, en effet, Antoine, on suivra ça avec vous. Il y a aussi la Société Générale qui publie très bientôt. C'est demain, c'est ça ?
Oui, c'est demain, effectivement. Ensuite, on aura le Crédit Agricole. BNP Paribas, il faut savoir que c'est 4% du CAC 40. Donc, on voit que c'est un des principaux contributeurs au gain du CAC 40 de ces derniers temps. D'ailleurs, le secteur bancaire signe une hausse de 17% en moyenne. Une performance sectorielle équivalente à celle du luxe.
Et oui, ça va bien, ça va très bien de ce côté-là. Merci beaucoup, Antoine Larry-Gaudry. Bon, ça va beaucoup moins bien sur un autre système, un autre secteur, celui de la santé, la faillite qui n'en finit plus de notre système de santé. Quelles sont les solutions ? On va en parler avec nos débatteurs Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi et Frédéric Bizard qui nous a rejoints sur ce plateau. A tout de suite.
90 minutes business, le débat.
L'heure de notre débat avec Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi et Frédéric Bizard qui est avec nous, économiste de la santé, professeur à l'ESCP. Merci de nous avoir rejoints. Deux actualités qui ont retenu notre attention en ce début de semaine. Le gouvernement qui remet la main à la poche, 750 millions pour aider la médecine de ville et les hôpitaux à s'en sortir. Et puis ces médecins, par ailleurs, en grève toute la fin de l'année dernière, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord encore avec la Sécu. L'assurance maladie qui propose d'augmenter la consultation d'1,50€ alors que certains médecins demandent carrément le doublement du tarif. Bref, le système de santé est à bout de souffle, Frédéric Bianchi.
C'est un système qui est en déficit chronique, quasiment, à 17 milliards d'euros en 2022. Alors, la dépense courante, elle augmente. En France, on rappelle qu'en France, on a un système d'assurance maladie, à la différence du Royaume-Uni, où c'est un système national public. Donc, le système d'assurance maladie, il est financé par les cotisations des personnes qui travaillent et il y a une concurrence entre médecins, à la différence d'autres pays. Alors, donc, les dépenses, ce qu'on appelle les dépenses courantes de santé au sens international, se sont élevées à 308 milliards d'euros. Ça, c'est pour l'année 2021. Les derniers chiffres qu'on a, c'est-à-dire 4 600 euros par habitant, en forte hausse, de près de 10%. Alors, qu'est-ce que représentent ces dépenses de santé dans le PIB ? Bien, en France, c'est un des poids les plus importants. Alors, on est derrière les États-Unis, mais c'est un système libéral qui est à 17,8%. L'Allemagne est à 12,8%. Et bien, la France est juste derrière, à 12,3% du PIB consacré aux dépenses de santé. Alors, une fois qu'on a dit ça, qui paye quoi finalement dans ces 307,8 milliards très précisément ? Eh bien, c'est la sécurité sociale, d'où l'énorme déficit, hein, qui prend en charge près de 80% de ses dépenses. Les mutuelles, elles suivent derrière, mais on le sait pour, principalement pour les lunettes et pour les soins dentaires. On est à 12,3%. Enfin, reste le fameux reste à charge, hein, la part prise par les ménages est à 7%. Et il faut le rappeler que c'est un des restes à charge les moins élevés de l'OCDE. Il n'y a que le Luxembourg, hein, le petit pays du Luxembourg, qui a un reste à charge plus bas que le nôtre. Donc on voit qu'on a un système finalement d'assurance maladie qui se veut très égalitaire, alors que normalement les systèmes égalitaires, ce sont les systèmes nationaux, comme le Royaume-Uni, d'où nos énormes déficits finalement, où on veut tout le bien, sauf que ça coûte extrêmement cher tout ça.
Frédéric Bizard, on a l'impression que le secteur coule et qu'on n'arrive pas du tout à le rattraper. Est-ce qu'il y a des solutions ?
Bien sûr qu'il y a des solutions. On travaille, nous, à l'Institut de Santé, sur une refonte depuis 4 ans. On a le programme, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui serait étonnant, c'est que ça fonctionne. Pourquoi ? Ce qui a changé, c'est pas que notre système de santé est devenu mauvais, percé, que nos formidables professionnels de santé sont tout d'un coup devenus tout à fait mauvais, tout ça. C'est une inadaptation d'un système par rapport à un environnement qui s'est transformé de façon radicale. Mmh. Hein, cette triple transition démographique, alors on peut même dire la population vieillit depuis longtemps. Enfin, entre 2010 et 2040, elle n'a jamais autant vieilli. Juste les plus de 75 ans vont doubler, 6 millions. À 12 millions. Deuxième chose, c'est que c'est plus le même risque qu'il faut assurer. C'est en effet un système d'assurance. Avant, c'était un risque court. Maintenant, c'est un risque long. Ce sont des pathologies chroniques. La stratégie de gestion de risque doit être radicalement changée. En gros, il faut passer d'une gestion à partir de l'offre à une gestion à partir de la demande. Il faut arriver à ce que l'individu, l'usager, soit le plus capable de gérer, de rester en bonne santé et de gérer sa pathologie avec un maximum de moyens. Ça change radicalement. Troisième chose, et on le voit avec les médicaments, c'est plus du tout les mêmes technologies pour utiliser. On est passé d'un monde de la chimie à un monde des biotechnologies. Bon, donc malheureusement, la France vit sur un modèle des années 70 pour les hôpitaux, des années 45 pour l'assurance maladie, des années 30 pour son exercice libéral, des années 2000 pour ses EHPAD, mais qui sont totalement inadaptés. Ben, il faut juste faire de la restructuration, c'est-à-dire qu'il faut adapter le système à la gestion des pathologies chroniques, il faut adapter le système à donner les capacités aux individus pour rester le plus longtemps possible en bonne santé, parce que si vous le faites pas, il se passe ce qui se passe, vous avez un gradient social très fort, les inégalités sociales de santé sont très fortes, parce qu'on n'agit pas en amont.
Enfin, la prévention, donc, c'est de ça dont vous parlez.
Oui, moi, je maintiens en bonne santé, parce que c'est, si vous voulez, les déterminants de santé, hein, c'est 20% le soin, 80% c'est hors soins, un développement économique et social inclusif, des comportements individuels favorables à la santé, un environnement favorable à la santé. Bon, ça, voilà, donc il faut simplement remettre, dernier point, on n'a pas rien fait évidemment tout ça, ce qu'on a fait on le paye, c'est-à-dire qu'on s'est dit il y a trop de liberté dans le système, il faut rebureaucratiser le système, il faut que l'État ait absolument le contrôle de tout.
La main.
On est arrivé, c'est depuis les ordonnances Juppé, on est arrivé au bout de cette logique, il n'y a pas de problème, l'État n'a aucun contre-pouvoir et décide de tout, mais ce qui a évidemment fini dans un système qu'il faut davantage décentraliser, sur lequel il faut parier plus sur la responsabilité des acteurs, sans compter que l'État ne fait pas ce qui doit être, fait, c'est-à-dire donner une vision de long terme et avoir véritablement une stratégie forte qui guide l'ensemble des acteurs.
Jean-Marc.
Oui, moi, ce qui me frappe dans ce système, c'est effectivement, là, Frédéric vient de le dire, c'est effectivement l'État s'en est mêlé de plus en plus. Depuis, donc, il y a eu les ordonnances de 67 où on a commencé à dessaisir les partenaires sociaux, puis après, il y a le plan Juppé. On est arrivé à ce qui est pour moi une aberration. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui vote un objectif de dépenses d'assurance maladie. C'est lui qui décide. Même en Union soviétique, il n'y avait pas ça. C'était pas le parti qui décidait si on devait être malade ou pas malade. La conséquence de ça, c'est que ça reste, tout ça est assez fictif. On accumule les déficits. On accumule un discours. Alors, on a parlé de la prévention, mais en fait, la prévention, c'est beaucoup des discours. On a parlé, la santé n'a pas de prix. Bon, on a dit, là, il ne faut pas donner la santé aux marchands. Et on voit au Royaume-Uni, on l'a dit, hein, le Royaume-Uni, c'est un système national de santé, nationalisé. Il est en grève, il mécontente à la fois les agents hospitaliers et les patients. Et la grande présenterie à Londres, c'est quel est le meilleur hôpital de Londres, c'est celui qui est à New York. Si, bon, et on a un peu ça en France. C'est-à-dire, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de nous parler du service public et qui vont tous se faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Donc, je pense qu'il y a un problème qui est un problème de passer des discours idéologiques et de constater que, effectivement, pour moi, le gros problème, c'est l'État qui s'en est trop mêlé et qui n'a pas assez joué la concurrence.
On parlait tout à l'heure des médicaments. Effectivement, au-delà des difficultés des systèmes hospitaliers un peu partout en Europe, il y a une autre problématique. La pénurie de médicaments avec plusieurs molécules en rupture de stock dans différents pays européens. C'est ce que vous avez regardé, Annalisa Capellini.
Tout à fait, Sandra. Alors, à cause des différences de comptage entre les différents pays, il n'est pas toujours facile de comparer les chiffres, mais vous le voyez, c'est clair, il manque des molécules dans plusieurs pays européens. Il s'agirait de 26 pays européens, selon la Commission européenne. Et alors, justement, la Commission tente d'endiguer cette pénurie et devrait présenter une révision globale de sa stratégie pharmaceutique pour mieux gérer les stocks de médicaments, mais aussi pour anticiper les pénuries à venir. Parmi les choses concrètes que la Commission peut faire, il y a autorisé les sites d'antibiotiques à augmenter très rapidement leur capacité de production et aussi acheter des médicaments directement au nom des États membres pour faire des réserves stratégiques. Eh bien, tout ceci est très compliqué parce que la santé relève du champ des compétences nationales des États et donc il est délicat pour la Commission d'intervenir. Et surtout parce que, encore une fois, face aux difficultés, les États cherchent des solutions tout seuls. Vous le voyez, on a plusieurs exemples. La Grèce qui a décidé de geler les exportations de médicaments pénuriques. La Roumanie, qui a envisagé d'interdire l'exportation de certains médicaments produits sur son sol. Et enfin, l'Allemagne, qui a évidemment un pouvoir d'achat différent et qui a proposé des hausses de prix pour être sûr d'obtenir les médicaments en priorité.
Situation causée par la forte dépendance de l'Europe à l'étranger, Annalisa.
Exactement, vous l'avez dit, l'Europe est très dépendante de l'étranger en ce qui concerne la production des médicaments, même pour les médicaments essentiels. Alors, 80% des principes actifs importés en Europe vient de seulement 5 pays, avec une forte prédominance de l'Asie, la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Il y a aussi le Royaume-Uni et les États-Unis. Et surtout, regardez la dépendance par rapport à la Chine. 45% des principes actifs européens viennent justement de Pékin. Et puis, il y a aussi la question cruciale des licences. Pour commercialiser un médicament en Europe, il faut obtenir un CEP, un certificat de conformité à la pharmacopée européenne qui certifie qu'une substance est produite selon les règles fixées par l'Europe. Eh bien, ces licences sont pour la plupart entre les mains de producteurs asiatiques. Vous le voyez, ces deux dernières décennies, la situation a radicalement changé. Et désormais, les producteurs européens détiennent la moitié des licences par rapport à leurs homologues asiatiques. Et enfin, il y a ce chiffre qui nous donne encore une fois la mesure de la crise de l'industrie de médicaments en Europe. Il y a désormais 93 principes actifs pour lesquels aucune entreprise européenne ne détient la licence nécessaire pour commercialiser en Europe.
Voilà, on perd de plus en plus, petit à petit, le pouvoir sur les molécules, Frédéric Bizard.
Oui, on le perd parce qu'on accepte de le perdre. Moi, bien sûr qu'il faut plus d'Europe dans le médicament. Enfin, comme disait le général, il ne suffit pas de sauter comme un cabri, ils disent plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe. On a tellement à faire, nous, à l'échelle nationale. Oui. Il y a eu un mouvement de balancier très fort depuis une quinzaine d'années vers la délocalisation, en effet, du fait d'une financiarisation excessive de l'industrie qui fait qu'il fallait délocaliser au maximum vers les pays à bas coût. Ce qui était pas forcément une bonne idée économique, mais qui est une aberration écologique et une aberration sur le plan de la perte de la souveraineté de l'Europe et des pays européens. Bon, ça c'est vrai, donc il faut le corriger. D'autant plus que quand vous avez eu un choc d'offres pendant le Covid, notamment avec la stratégie zéro Covid, qui fait qu'en fait le marché il s'est un petit peu équilibré à un équilibre qui est inférieur, si vous voulez, aux besoins. Donc ça prend du temps, c'est un peu une notion économique, mais ce qui fait qu'en fait on a un retard qui prend du temps. Les cycles industriels sont longs. Enfin, à l'échelle de la France, il y a quand même un sujet. On était leader, quasiment leader mondial, leader européen dans la production de médicaments et dans la recherche. On a dominé la recherche dans la génomique, l'ARN messager a été inventé en France dans les années 90. Bon, et puis dans les années 2000, on a dit la santé n'est plus un secteur stratégique, donc on désinvestit dans la santé. Pour le coup, là, quand je parlais, c'est pas moins d'État, c'est un État vraiment stratège qui, voilà, il a pas du tout eu ce rôle-là. Donc aujourd'hui, nous sommes des grands spécialistes. 95% de notre production industrielle est tournée sur les produits matures, les vieux médicaments. Bon, sauf que pas de chance, parce que 90% de la croissance, elle se fait sur les produits de biotechnologie sur lesquels on n'a ni la maîtrise des technologies, oui, ni les sites pour les produire. Bon, et que fait-on en pleine crise Covid pour essayer de rassurer le bon peuple? On dit, on va faire plus de on va rapatrier les produits actifs des Doliprane, le paracétamol. Enfin, vous voyez, on continue sur une stratégie qui est, pour moi, à long terme, une stratégie de désindustrialisation. Oui. Je veux dire, peut-être un peu d'analyse ricardienne pour montrer que c'est mieux de produire là où on est le plus compétitif. Eh bien, nous produisons là où nous sommes le moins compétitifs. Or, nous avons toutes les capacités, mais ça, c'est un choix politique, pour faire de la restructuration industrielle et de la relance de notre recherche, parce que c'est un écosystème. Hein. En général, les produits à forte valeur ajoutée sont produits là où il y a de la recherche sur ces produits-là. Donc, soit on prend cette décision-là que la France doit redevenir un grand pays du médicament, donc de la recherche, et doit reprendre un leadership dans la production, et nous en sommes tout à fait capables. Soit on se dit, il faut rassurer le bon peuple en produisant chez nous des produits sur lesquels il n'y a aucune marge.
On a la capacité d'avoir cette vision et de. On en est capable, mais est-ce qu'on peut le faire?
Mais l'histoire récente l'a montré. Écoutez, on nous parle de la Chine, sauf que la Chine est incapable de vacciner sa population. Et le vaccin, il n'est pas venu de la Chine ou de l'Indonésie. Il est venu de Pfizer, il est venu de Moderna, il est venu d'Europe ou des États-Unis. Le véritable enjeu pour nous, c'est pourquoi est-ce que nos savants, nos chercheurs partent aux États-Unis et c'est pas de savoir si on va se remettre à faire effectivement du paracétamol. Je crois qu'un des enjeux, c'est que c'est un secteur. Il va y avoir énormément de progrès technologiques à tous les stades, dans le médicament, mais aussi dans le diagnostic, dans la façon d'opérer les gens sur le plan de la chirurgie. Et dans ces secteurs-là, c'est les pays qui vont effectivement être capables de faire des économies et de rendre le système supportable sont les pays qui auront fait les investissements et qui auront innové. Et si on passe son temps effectivement à se dire on va rappeler les masques. Le nombre d'entreprises qu'on nous a dit, il faut recréer des entreprises de masques. La dernière à avoir déposé son bilan a déposé son bilan la semaine dernière parce que ça a été un coup d'épée dans l'eau et un gaspillage d'argent public évident.
Ce qui sera le cas des structures qu'on met sur pied pour fabriquer du Doliprane qui vont fermer dans quelques années puisque il n'y a pas de viabilité économique. La notion de souveraineté, elle est relative, hein, contrairement à ce que disait Baudin sur le plan politique où c'est absolu. Non, c'est relatif. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir tout chez soi. Ouais. Le but, c'est de produire ce qui nécessite. Et vous savez, la souveraineté, c'est avant tout sur les innovations technologiques. C'est pas sur ce que tout le monde peut produire. Il faut une diversification des bases de production. Encore une fois, on a été trop loin vers la délocalisation. Et il faut pouvoir maîtriser à l'échelle de la France et de l'Europe l'essentiel des technologies. Et nous en sommes tout à fait capables.
Merci beaucoup Frédéric Bizard, économiste de la santé, professeur à l'ESCP, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business. Merci Jean-Marc. Merci Frédéric. C'est l'heure de retrouver Lorraine.
90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie.
La libre antenne de l'économie, dans un instant, avec vous, Lorraine Goumeau, vous répondez aux questions des auditeurs téléspectateurs. Vous parlez prud'homme aujourd'hui.
Oui, gros programme, c'est Sabrina Kemel, avocat associé au cabinet FTMS, qui est avec nous ce midi. Bonjour Sabrina.
Bonjour Lorraine.
On a 1000 questions sur les prud'hommes, on y répondra dès 13h15. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous les envoyez en direct sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et aussi à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Mais pour l'heure, la question c'est, peut-on saisir le conseil de prud'homme par Internet? Il paraît qu'on peut remplir un petit formulaire en ligne. Est-ce que ça fait l'affaire, Sabrina?
Alors, on peut remplir un petit formulaire en ligne, un petit formulaire qui s'appelle une requête. En revanche, ce formulaire ne peut pas être adressé au conseil de prud'homme en ligne. Donc, il n'y a pas de saisine à proprement parler d'Internet. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est remplir la requête en ligne, l'imprimer et l'adresser au conseil de prud'homme par recommandé avec avis de réception ou recommandé en ligne.
Donc, pas de processus 100% digitalisé. Est-ce que vous savez si c'est en cours de préparation, cette numérisation de la requête de prud'homme?
J'en ai pas entendu parler, Lorraine. Peut-être que ça arrivera, mais là, les conseils de prud'homme ne sont pas encore 2.0. Mais on pourra y venir peut-être dans les années à venir, ça c'est possible.
Voilà, pas encore 2.0. Néanmoins, on a plein d'autres questions avec plein de réponses tout à l'heure. Par exemple, qui gagne le plus souvent au prud'homme ou encore qui est-ce qui paye les frais de prud'homme? Est-ce qu'on peut faire payer quand on est salarié les frais de prud'homme à quelqu'un d'autre? Réponse 13h15, Sandra.
Merci, la libre antenne de l'économie. Dans un instant, avec Lorraine Goumeau, à retrouver en télé, radio et sur les réseaux sociaux, on l'a dit. Moi, je vous retrouve demain à partir de midi avec Jean-Marc et toute la team. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Très bonne journée sur BFM Business.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.